Vous allez entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. Le programme était diffusé en direct ce mercredi, 5 mars, de 16h à 17h.
La frontière, c'est l'affirmation que tout ne se vaut pas, qu'entre nous et les autres, il y a une différence.
La frontière, on a autant de raisons de la redouter que de l'aimer. Moi, j'ai les deux.
Is a new dimension in sound. This is
what I want to hear already.
Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Frontières, l'émission qui secoue tes préjugés. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons explorer une frontière qui nous sépare, qui nous divise. Alors, l'explorer pourquoi ? Tout simplement pour essayer de la comprendre et pourquoi pas de l'atténuer, voire de la faire disparaître. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une frontière sensible, la frontière entre les citoyens et les anciens détenus. N'est-ce pas, Alice ?
Oui, Lola, une frontière particulière, faite de barreaux, de clés et de portes, nous sépare d'un monde carcéral inconnu et parfois effrayant. Il y a 10 ans, le procès du Trou débutait. Ce triste anniversaire nous rappelle à quel point l'éventuelle sortie d'anciens détenus soulève la population. Souvenez-vous, la libération de Michel Martin avait déclenché une vague de contestation parmi les citoyens belges. De son côté, Michel Lelièvre, lui, remplit les conditions d'une libération conditionnelle depuis 8 ans. En 2013, l'ancien détenu propose un plan de réinsertion au tribunal d'application des peines. Il est soutenu par une association, mais l'entreprise, au dernier moment, se rétracte sous la pression médiatique. Alors, ces hommes et ces femmes mis au banc de la société sont-ils marqués au fer rouge ? À vie, cette frontière morale qui se dresse entre nous est-elle insurmontable ? Sommes-nous prêts à accueillir les anciens détenus dans notre société ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette émission.
Merci Alice. Passons tout de suite au sommaire. Cette semaine, nous avons rencontré Bernard Wery. Cet homme de 52 ans vient de sortir de prison. Il nous racontera comment tout peut basculer en un instant. Nous nous rendrons ensuite à l'Office de réadaptation sociale. Cet ASBL au centre-ville oriente les anciens détenus vers une réinsertion socio-professionnelle. Nous écouterons ensuite le criminologue de l'ULG Vincent Seron. Il nous éclairera sur les dérives liées au certificat de bonne vie et mœurs. Et enfin, Julien et Romain nous ont rencontré pour nous Jean-Marc Mailly, ancien détenu devenu éducateur et qui, à travers une pièce de théâtre, tente de sensibiliser les jeunes. Comme vous venez de l'entendre, un programme très chargé. Avec nous aujourd'hui, pour décortiquer cette frontière, Thibaut Slingeneyer. Thibaut Slingeneyer, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes professeur de droit et de criminologie à l'Université catholique de Louvain. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation.
Merci à vous.
On démarre tout de suite avec notre micro-trottoir. Nous sommes venus à votre rencontre avec une question. Est-ce que les anciens détenus sont des citoyens comme les autres ?
On a toujours un a priori quand on entend quelqu'un a commis une faute grave, a fait de la prison.
Une personne qui a commis un meurtre comme ça sur un coup de tête ou un viol parce que c'est juste une personne dérangée, je pense pas qu'il faut les aider à se réinsérer, quoi.
Je crois que je pourrais pas m'empêcher de cette manière de le juger.
Je pense plus à la victime qu'à la personne qui a fait l'erreur, quoi.
Il y en a qui sont irrécupérables. Comme un certain Dutroux, il est irrécupérable. Hein. Donc il vaudrait mieux ne pas le rencontrer au coin de la rue.
Hein. S'ils ont payé leur peine, je crois qu'ils peuvent devenir des citoyens comme les autres. Ça dépend. Ça dépend peut-être pas des pédophiles.
Ah, clairement que ça fait peur. Je pense que c'est normal. Mais ça dépend du comportement de la nouvelle personne, entre guillemets.
Il faut voir s'ils ont commis des crimes ou des délits, je sais pas. Et après, faut voir peut-être au cas par cas, il me semble.
Je dis pas qu'il faut les pardonner, mais les comprendre, oui, ça d'office.
Ce sont des êtres humains avant tout qui ont besoin d'un plan de réinsertion socio-professionnelle. Et c'est pas en excluant les autres qu'on va résoudre les problèmes.
Faut pas parce qu'ils ont été en prison coller une étiquette et qu'ils puissent plus rien faire par la suite, quoi.
C'est sûr qu'ils ont le droit de se réintégrer, il faudrait qu'ils se réintègrent, mais je crois que c'est un très gros problème. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient prêts à les accepter comme ça, voilà, sans réfléchir. Voilà.
Alors voilà, on l'entend, des avis assez différents, mais ce qui revient toujours, ce sont tout de même les craintes, la peur, les a priori. Pendant l'élaboration de ce micro-totoir, une idée revenait souvent chez les passants, celle de dire qu'il faut effectivement réinsérer les anciens détenus, mais pas les meurtriers et les pédophiles. Est-ce qu'aux yeux de la population, ces crimes-là sont impardonnables ?
Mais donc là, effectivement, de votre micro-trottoir apparaît évidemment l'idée que pour la population, il y a un peu un fantasme sur certains faits qui semblent particulièrement problématiques. Maintenant, je pense qu'une première manière de relativiser un peu les choses, c'est de se poser la question, de se dire, est-ce que ces personnes-là, donc ceux qui posent particulièrement problème par la population, donc les meurtriers, les pédophiles, est-ce qu'ils ont moins de chances que les autres de se réinsérer ? Et là, il y a déjà peut-être une première idée qui peut peut-être, j'espère, rassurer vos passants, c'est qu'on a pu montrer dans des études que le taux de récidive, pour prendre par exemple la question des pédophiles, eh bien, n'est pas plus important que, il est même meilleur que certaines autres catégories de détenus. Donc là, effectivement, c'est la gravité des faits qui semble poser problème et on veut prendre aucun risque. C'est le risque zéro qui veut être mis en place. Mais si on veut réellement se poser la question de manière scientifique, eh bien, les risques sont meilleurs pour ces catégories-là que pour d'autres.
Alors, on a entendu le nom de Dutroux dans le micro-trottoir. Est-ce que les détenus ont plus de mal à se réinsérer, à se refaire une place dans la société depuis cette sombre affaire, qu'ils aient commis des crimes ou des délits ?
Alors là, effectivement, on voit que la justice, de manière générale, et puis les décideurs en matière de libération conditionnelle ont été en partie frileux après cette affaire-là. Il y a d'ailleurs eu une décision ministérielle à l'époque qui était de bloquer purement et simplement les libérations conditionnelles pour un certain temps. Maintenant, on a repris, évidemment, après cet émoi, la question des libérations anticipées. Mais il faut reconnaître qu'il y a toujours des traces qui restent, que ce soit l'affaire Dutroux ou bien les affaires plus récentes avec Michel Martin, où effectivement, on libère conditionnellement, par exemple, de plus en plus tard. Et ça va poser pas mal de soucis.
Quoi, les détenus disent que c'est une injustice ?
Alors, effectivement, quand on était vraiment proche de l'affaire Dutroux, vous aviez dans le discours des détenus qui disaient on n'est pas tous des Dutroux et donc on ne comprend pas pourquoi, effectivement, des possibilités qui nous étaient ouvertes en termes de libération conditionnelle se sont fermées ou en tout cas réduites.
D'accord. Si les détenus effraient tellement les citoyens, c'est en grande partie à cause de l'inconnu. On ne veut pas, ou en tout cas on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre l'autre. C'est ce que nous allons tenter de faire maintenant avec le passeport de la semaine.
Attention, ne souriez pas.
Passeport.
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 Attendez quelques instants, vos photos seront bientôt disponibles.
Personne n'aurait pu prédire la case prison pour Bernard Wery. Pourtant, un jour, un acte isolé et imprévisible lui a fait passer la frontière. Après une altercation avec son voisin, Bernard Wery se retrouve condamné à 84 mois de prison pour incendie volontaire et tentative d'assassinat. Un portrait signé Alice.
Je sais pas quel CD, mais je sais pas si c'est pas le DVD.
Je m'appelle Bernard Wery, je suis célibataire, j'ai 52 ans et maintenant, voici un mois que je viens d'être libéré du centre de détention de Saint-Hubert. J'aurais bien voulu travailler comme bibliothécaire dans le centre de documentation pour un journal. J'aurais bien voulu travailler en fait au journal le soir. J'avais tout ce qu'il fallait, mais le bibliothécaire qui allait partir à la pension m'a refusé la place. Il m'a dit, monsieur Wery, c'est bien, maintenant tapez un petit peu à la machine. Vu que je suis invalide de mon côté gauche, il m'a dit « ça va pas le faire ». Je me suis dit quand je suis sorti du journal le soir, « mon petit gars, tu vas voir dur ». Et en effet, pour moi, peut-être aussi pour beaucoup d'autres, hein, mais pour moi, ça a été franchement dur. J'ai dit « la société ne voulant pas de moi, je ne veux plus de la société non plus ». Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je crois que j'ai fait la chose qu'il ne fallait pas faire, c'est de me renfermer et dire « ok, ça va ». Et là, j'ai commencé à déraper. J'ai commencé peut-être à boire un verre, et puis deux, et puis un peu de trop, et puis j'ai pété un câble, quoi. le jour où ça s'est passé, en fait, le gars m'a pris, m'a jeté hors de la maison, m'a fait traverser la cour en gravier, m'a commencé à me tabasser, quoi. Je suis rentré ici, j'ai encore ouvert une bière ou deux, j'ai fumé deux, trois cigarettes, je me suis dit, je peux pas laisser passer. Moi, j'avais été blessé dans ma chair et dans mon esprit, quoi. Là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris un bidon, j'ai été chercher de l'essence. J'ai pris un sac, j'ai pris un rouleau de cigarette, une boîte d'allumettes. Je me suis assis sur le banc, juste devant chez eux, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est en sentant le feu que la fille a levé son volet, a ouvert les fenêtres, et puis elle m'a reconnu. Elle dit à son compagnon, il y a Bernard qui est en train de mettre le feu. Mes forces étaient complètement décuplées. J'ai pris le bidon, je l'ai lancé. Malheureusement, il est passé par la fenêtre. Est-ce qu'il y avait un chauffage d'appoint ou quoi? J'ai entendu, boum, il y a tout qui a sauté, il y a tout qui a flambé. Moi, je n'ai pas pris mon reste, moi j'ai repris mes affaires. J'ai tourné les talons, hop, je suis rentré chez moi.
Tu es rentré, tu m'as crié, « Maman, je viens de dire au revoir », que tu m'as dit.
Ah oui.
Oui. Et tu t'es assis sur les escaliers, sur le seuil, là, et t'as attendu que la police arrive. Le jour que c'est arrivé, je pense qu'on l'aurait mis dans un cercueil, c'était la même chose.
Je fais comme tout le monde, hein, je suis au micro. J'ai mis des poireaux, j'ai mis des morceaux de courgettes et j'ai mis un gros paquet de cerfeuils du jardin. C'est tout légumes. Disons que mes deux filles, quand c'est arrivé, elles n'ont pas vu les choses de la même façon toutes les deux et il y a eu un petit froid. Et ce petit froid est toujours là. Il y en a une qui a dit, il ne mérite que ça. Il a fait ce qu'il ne fallait pas, mais il mérite d'être puni. Nous, on dit à nos enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Et quand ils le font, on les punit.
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai repris mon blog et j'ai écrit pour essayer d'avoir du bénévolat. Et avec l'aide de certaines personnes, dont l'aumônière de prison ici à Huy, j'ai obtenu un bénévolat à l'école des devoirs et un bénévolat à la bibliothèque de Huy. Donc j'ai deux bénévolats sur le feu, si je peux dire. Les magistrats ont regardé, ont pesé le pour et le contre. On m'a dit, vous aurez votre réponse dans 15 jours. J'ai ouvert le jugement du TAP et c'était bon, j'étais admissible à la libération conditionnelle, quoi. Celui qui sort après plusieurs années de détention, tout a changé. Il y en a qui n'ont plus de sous non plus, il y en a qui n'ont rien. C'est pas évident. Heureusement, moi, j'avais tout à l'extérieur. Enfin, j'ai encore tout à l'extérieur. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui essayent de déménager, déménager ou changer d'endroit. Je sais certainement bien qu'il y a certaines personnes qui connaissent ce que j'ai fait. Donc, il faut faire fi de ça et c'est pas évident, quoi. Bon, tant pis, on ne veut pas vous dire bonjour, on ne vous dit pas bonjour. J'espère que la prison m'a appris quelque chose de positif, parce que si vous n'apprenez pas quelque chose du milieu carcéral, vous y retournerez peut-être, mais j'ai pas envie, moi j'ai 52 ans, j'ai pas envie de retourner en prison.
Bernard Wery est de bonne famille, il a suivi un parcours scolaire normal, il a même fait des études. Alors voilà, Thibaut Singenayer, y en a-t-il beaucoup des détenus comme Bernard Wery qui a priori n'avait pas un parcours qui menait vers la prison?
Alors là, c'est une question un peu compliquée que vous soulevez. Alors, je répondrai peut-être en deux temps. D'abord, l'idée que, et vu votre titre de votre émission Frontières, je pense que là, effectivement, il n'y a pas une frontière entre eux et nous, en le sens que forcément, on serait certain qu'on ne va jamais commettre un fait qui va nous conduire en prison. Donc là, première réponse, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse dire que quelqu'un, qui que ce soit, puisse dire « moi, jamais je n'irai en prison ». Premier moment de la réponse. Maintenant, deuxième moment de la réponse, il ne faut pas en conclure que tout le monde a les mêmes chances d'aller en prison. Effectivement, pour les faits qui sont commis, c'est généralement des faits qui sont liés à des catégories de la population qui sont relativement défavorisées. D'accord ? Le système pénal va agir préférentiellement sur une population cible, D'accord. Et quand, évidemment, on est membre de cette population cible, eh bien, effectivement, les risques d'incarcération sont plus importants. Qui est-ce qu'on vise dans cette population cible ? Eh bien, d'abord, premier critère, c'est les hommes. D'accord. Il y a 95% de détenus qui sont des hommes et 5% seulement qui sont des femmes. Finalement, deuxième critère, les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus ciblés par le système pénal. Et puis, les personnes qui ont des difficultés socio-économiques et liées à cela parfois, le fait d'être étranger. Tous ces éléments-là ne vont pas vous faire dire que ces gens commettent plus d'actes forcément. Non, mais en tout cas, ils sont plus facilement punis, plus sévèrement.
Et alors, est-ce que ce type de détenu comme Bernard Wery, donc qui n'est pas une personne défavorisée, qui n'est pas jeune, parce que Bernard Wery a 52 ans, est-ce que ce type de détenu est plus facile alors à réinsérer dans la société ?
Alors, je dirais a priori, oui, si il peut effectivement avoir un entourage qui est aidant par rapport à ça. Je ne sais pas s'il pouvait obtenir une place dans une société gérée par une connaissance. Donc ça, c'est des choses évidemment qui aident beaucoup. Mais si on n'a pas cet entourage qui peut aider, à ce moment-là, c'est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut alors passer par des services qui sont spécialisés pour vous aider à la réinsertion.
Les différents intervenants que nous avons rencontrés mettent en lumière que les détenus sont souvent des personnes qui n'étaient déjà pas insérées dans la société au départ, avant leur incarcération. D'une certaine manière, est-ce que ce ne serait pas aussi un peu la faute de la société qui n'a pas pu leur offrir une place ?
Alors ça, c'est clair que dès le départ, on parle de réinsertion, mais on pourrait se poser la question de l'insertion plutôt que de la réinsertion. C'est un peu ça que je vois derrière votre question. Donc effectivement, première idée, c'est déjà une situation qui fait que leur vie préalablement, en tout cas pour certains d'entre eux, avant la prison, était une vie qui était avec pas mal d'embûches. Maintenant, les embûches vont continuer à s'amonceler après le passage en milieu carcéral. Et je reprendrai simplement une parole d'un directeur de prison qui dit s'il y a réinsertion, ce n'est pas grâce à la prison, mais malgré la prison.
Alors, une fois sorti de prison, tout est à refaire. Trouver un logement, des revenus, un travail, se recréer une sphère sociale. Pour ce faire, plusieurs ASBL proposent leur aide aux anciens détenus. Alice s'est rendue à l'Office de réadaptation sociale. Cette ASBL bruxelloise existe depuis 92 ans et elle regroupe plusieurs types de métiers tels que psychologues, assistants sociaux ou encore criminologues.
Oui, bonjour, Guyendach. Ah bonjour, oui, effectivement. Oui, non, je me souviens vraiment bien de vous, oui, tout à fait. Ah, vous êtes libéré depuis avant-hier.
Cela fait maintenant 11 ans que Patrick Beul est assistant social à l'ORS. Cette ASBL propose deux types de services, le service social en prison et celui post-incarcération. Plusieurs publics sont visés, mais c'est principalement avec l'ancien détenu qu'il est possible de travailler concrètement.
Le guider effectivement, lui donner des conseils. S'il sait faire des démarches lui-même, ben c'est d'autant mieux. Alors les conseils qu'on lui donne lui permettent de faire les démarches. S'il n'est pas en état de faire les démarches lui-même concrètement, alors là nous l'aidons, nous l'accompagnons même très concrètement, par exemple jusqu'à Actiris, jusqu'à une agence immobilière sociale, des choses comme ça.
Plusieurs types d'aides donc, un coup de pouce indispensable pour redémarrer et se refaire une place dans la société. Si les ASBL comme l'Office de réadaptation sociale sont venus en aide à des centaines de personnes, elles se font rares. La demande est beaucoup plus importante que l'offre.
Malheureusement, depuis plusieurs mois, on travaille maintenant avec des listes d'attente pour les nouvelles demandes. Pour la médiation de dette, c'est beaucoup plus long. Là, il y a 30 personnes sur la liste d'attente. Donc il se peut que le 30e ne sera vu que dans 4 mois ou 5 mois. Voilà.
Cette inégalité entre l'offre et la demande est dommageable pour la société puisque le travail de ces ASBL réduit les risques de récidive.
Plus on travaille à une bonne réinsertion, moins il y a un risque de récidive aussi. Hein, si on ne fait rien, si ces gens sortent, sont mis en liberté comme ça tout à coup du jour au lendemain et qu'ils ne sont pas du tout encadrés ni soutenus quand c'est vraiment nécessaire, eh bien, il y a un risque de récidive plus grand. Donc voilà, c'est bien d'avoir des assistants sociaux, des psychologues ou la famille qui soutient, qui aide.
Après avoir passé une décennie à accompagner les détenus,
Patrick Boyle invite les citoyens à dépasser les images préconçues.
Souvent, le mot détenu fait peur, hein, parce qu'il y a justement ce cliché, cette étiquette qu'on impose. Détenu égale personne mauvaise, entre guillemets, dangereuse peut-être. Donc voilà, alors que souvent, on est très très loin de ça. Il y a des gens très très bien en prison. Il y a beaucoup de gens vraiment très très bien en prison qui ont commis une erreur. Et l'erreur étant humaine, ben voilà, on est là pour les aider à en commettre moins ou à ne plus en commettre. Donc voilà. Non, je pense qu'il faudrait peut-être que plus de gens dans la société réfléchissent un petit peu à ça et prennent distance par rapport à cette étiquette de détenu dangereux, dangereux et mauvais.
Des gens très très bien en prison. Vous êtes de cet avis aussi, Thibault Slingeneyer ?
Oui, bien sûr. Donc, je confirme vraiment votre idée qu'avec l'idée de frontières, il faut, je pense, avant tout axer sur les points communs qu'il y a entre les personnes qui sont détenues et celles qui ne le sont pas. Et c'est, je pense qu'en insistant sur les points communs plutôt que sur les différences, qu'on fera bouger l'intérieur de la prison et qu'on permettra une réinsertion d'autant plus facile.
L'assistant social dans le reportage, Patrick Boyle, déplorait le manque d'ASBL pour venir en aide aux anciens détenus. Est-ce qu'il en manque vraiment tant que ça et pourquoi est-ce qu'il y en a si peu ?
Alors, c'est vrai que la situation est un peu compliquée puisqu'elle est de la compétence des communautés et donc les services d'aide aux détenus sont des services qui fonctionnent tant bien que mal parce qu'ils ont quand même des grands déficits de moyens et donc il y a des gens qui font du très très bon boulot, mais c'est vrai qu'ils sont relativement peu nombreux.
En quoi est-ce que c'est important pour la société, donc pour les citoyens, que la réinsertion des anciens détenus se passe au mieux ?
Mais ça, je pense que ça paraît assez évident que si on reste avec cette idée, il faut leur faire punir pour ce qu'ils ont fait et que, comme dans les premiers reportages, on refusait tout droit à la réinsertion, bien, ce qui va se passer, bien, on le sait déjà, ça va être la récidive. Donc, si on peut comprendre qu'à un moment, un début de l'incarcération, la fonction de la peine, c'est de punir et de sanctionner pour dire que la société n'est pas d'accord. Je pense qu'à un moment, il faut passer à une autre logique. Il faut se dire qu'il y a un moment où la fonction de la peine n'est plus celle-là et elle est vraiment axée sur le futur, sur la réinsertion.
D'accord. Pour prendre un peu de hauteur maintenant sur cette thématique, nous passons au panorama.
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 Bonjour Romain.
Bonjour Léla.
Alors on l'a compris, le travail est un des principaux leviers de la réinsertion, mais les détenus sont mis à l'épreuve bien avant leur sortie.
Alors oui Léla, en 2005, le gouvernement a adopté une loi nommée la loi des principes. Son but est de mettre l'accent sur une des missions essentielles de la prison, la préparation à la réinsertion. Alors officiellement, l'idée est surtout de permettre aux détenus de bénéficier de formations. Ces formations, elles sont surtout professionnelles en fait. Les détenus apprennent un métier, comme par exemple électricien ou cuisinier, et pour pouvoir accéder à ces formations, les futurs élèves doivent passer un certificat d'aptitude. Le but est de vérifier qu'ils sont vraiment motivés et qu'ils ne décrocheront pas en cours de route. Les places sont chères et une fois admis, les détenus reçoivent durant leur formation une gratification de 62 centimes de l'heure. Enfin, mais les formations et plus généralement cette préparation à la sortie sont assurées par plusieurs acteurs. Ils sont à la fois internes, il y a déjà des agents pénitentiaires, des équipes de direction et externes au travers des ASBL. Mais l'Université de Liège s'est penchée sur la question il y a peu et dans son rapport, elle a pointé de nombreux problèmes, parmi eux le plus important, un manque de cadre et d'une politique globale qui donnerait une cohérence à l'offre de formation dans le milieu carcéral en Belgique.
Et du coup, les détenus connaissent de nombreuses difficultés à la sortie et cela peut les mener à la récidive, comme nous disions.
Alors oui, justement, la récidive, c'est vraiment un problème majeur actuellement. Il faut dire que près de la moitié des détenus qui purgent leur peine finissent par se retrouver derrière les barreaux. Et le temps qu'ils mettent à revenir en prison est variable. Il va de un jour à plusieurs années. Et les études montrent que les hommes ont plus tendance à retourner en prison que les femmes. Néanmoins, il s'avère que des solutions comme le bracelet électronique sont plutôt positives. Elles permettent de faire largement baisser le taux de récidive. Voilà donc des pistes à explorer, Lola.
Merci Romain. Nous marquons maintenant une courte pause musicale avec Mimi la Douce de Pierre Perret.
Écoutez l'histoire de Mimi, Mimi la Douce pour les amis, Mimi cœur sec pour les blancs becs. Ses 20 berges, elle les faisait même pas, elle avait qu'à siffler comme ça, 20 types s'écroulaient dans ses bras. Moi je lui brodais trois fois par jour de délirants billets d'amour, de la même encre que ses yeux doux. Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa peau était un bol de lait que je lapais comme un matou. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanche et d'un costume de baiser. L'amour s'ébatte, me dit-elle un jour, mais on est fauché mon amour, faudrait casser chez les Rubens. Je lui dis, t'oublie que je suis chanteur, un jour j'aurai des droits d'auteur et on pètera dans le satin. Elle me dit, les poules auront des dents, faisant bonne œuvre à l'intendant, soulageons les riches malheureux. Moi, pour un seul de ses cheveux clairs, j'aurais foutu un type en l'air si elle m'avait dit zigouille-le. Elle avait ma petite violette, de chouette mirette, un corps de fête, que j'endimanche et d'un costume de baiser. On a d'abord fait les perceptions, les coffres des allocations, les bijouteries pleines de promesses. C'est pénible à dire et c'est honteux, au moment d'estourbir les vieux, je mouillais ma chemise comme une gonzesse. Je commençais juste à me faire la main, quand toute la maison poulardin nous a mis le grappin sur le dos. Maintenant je suis tondu comme un veau, ils l'ont mise à la petite roquette et moi en centre à la Clairvaux. Mais je retrouverai ma violette, tes chouettes mirettes, ton corps de fête, que j'endimancherai d'un costume de baiser.
C'était Mimi la Douce de Pierre Perret. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de Frontières, l'émission des étudiants en journalisme de l'ULB. Aujourd'hui, nous explorons la frontière qui sépare les citoyens des anciens détenus. Toujours avec nous en studio, Thibaut Slingeneyer, professeur en droit et criminologie à l'UCL. Romain a rencontré pour nous Vincent Seron, criminologue à l'Université de Liège. Il est partisan d'un meilleur encadrement concernant le certificat de bonne vie et mœurs, car pour lui, il existe de trop nombreuses dérives.
Alors, il y a des dérives parce qu'il y a des emplois publics où là les choses sont beaucoup plus réglementées. Et puis il y a les employeurs privés qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et qui peuvent très bien à un moment donné regarder le casier de l'intéressé, si l'intéressé accepte de le fournir et dire au final, moi je ne vous engage pas. En arguant peut-être un autre motif, mais soit la personne le fournit et les mentions apparaissent, et là l'employeur se dira « écoutez, moi j'ai pas envie de vous engager », en tout cas il le dira peut-être de manière indirecte, soit la personne refuse, et ça va jeter un doute par rapport à ses antécédents judiciaires, et le résultat sera le même, l'emploi ne lui sera pas attribué. Donc on a ce cas de figure-là pour les employeurs, puis il y a des propriétaires qui estiment qu'ils doivent avoir un droit de regard sur le passé judiciaire des locataires, même si, je dirais, l'infraction n'a aucun lien avec le fait de louer un bien, mais il n'en reste pas moins qu'en pratique, on a déjà constaté ce type de dérives un peu légales et qui sont difficiles à contourner dans la mesure où ce n'est pas un critère de discrimination en droit belge en tout cas. Et donc on assiste quand même à une série comme ça de dérives potentielles.
Thibaut Snigenayer, est-ce que les propriétaires ont le droit de demander le certificat de bonne vie et mœurs, qu'on appelle aussi extrait de casier judiciaire ?
Mais il y a pas la question du droit ou du non-droit ne se pose pas réellement, c'est-à-dire que effectivement si on entend par droit que la personne est obligée de le donner, non, ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas forcer quelqu'un à le donner. Maintenant, c'est vrai qu'on sait comment dans l'interaction ça peut se passer. Un propriétaire peut sous-entendre une question ou bien dire, bien, ce serait quand même pas mal si vous me donniez telle ou telle information, y compris fiche de salaire, y compris pourquoi pas la bonne vie et mœurs. Et donc voilà, ça se pose un peu dans une espèce d'infradroit où ça va jouer, comme Vincent Seron le dit, ça va jouer indirectement. Mais
c'est une forme de discrimination au final.
Alors, pas juridiquement, comme il l'a dit, mais effectivement, dans les faits, c'est relativement discriminant, oui.
Est-ce que les anciens détenus, pardon, ont du coup des recours possibles ?
Ça me paraît difficile si, effectivement, la loi ne prévoit pas une question de discrimination par rapport à cette question-là.
Un autre problème majeur, c'est le regard des autres. Les anciens détenus sont très souvent stigmatisés par la société. Difficile dans ces conditions de retrouver une vie normale. Écoutons Vincent Serrault.
Ça participe aussi au fait que c'est difficile de retrouver une vie normale, hein, que ce soit à travers le regard que les gens portent sur vous, que ce soit à travers le casier judiciaire où finalement vous êtes marqué en permanence par rapport à votre passé. Et donc ces différents éléments-là font qu'à un moment donné, vous restez un exclu de la société. Vous avez peut-être déjà été avant et qui à un moment donné a fait en sorte que... toute une série de circonstances ont mené à la commission d'une infraction. Et ces éléments-là, ils se retrouvent aussi après la prison. La prison n'est pas une case et une période temporelle qui, à un moment donné, permet de devenir meilleur et d'être mieux armé pour être, inséré dans la société. Certainement pas en Belgique, en tout cas.
Est-ce qu'on peut parler de double peine ? Donc il y a la peine en prison, et puis finalement, quand on sort, on n'est pas totalement libre, pas totalement blanchi, du moins pas aux yeux des autres.
Écoutez, vous utilisez le concept de double peine dans un sens que je comprends, qui n'est pas toujours celui qu'on utilise, puisque généralement, quand on parle de double peine, on évoque la situation des étrangers qui sont sans titre de séjour et qui donc... sont dans un premier temps en prison parce qu'ils ont commis des faits, et puis ils le restent parce qu'ils n'ont pas le titre de séjour. Maintenant, dans l'expression que vous utilisez, effectivement, les traces continuent bien longtemps après l'incarcération. Et comme Vincent Serrault le disait, rien n'est fait, en tout cas en Belgique, pour que les choses se passent mieux après la case prison. Je prendrai simplement un exemple pour montrer en quoi c'est vraiment... on est mal préparé par rapport à ça. C'est on est dans un état qu'on pourrait qualifier d'état social actif, où on demande de plus en plus aux citoyens d'être actifs, d'être proactifs, de faire les démarches. Mais il faut savoir que rien n'est mis en place pour que le détenu vive sa détention comme un acteur. Tout au contraire, on a pu montrer que vraiment il y a une infantilisation du détenu qui, pour toute chose, doit dépendre du personnel de surveillance pour obtenir telle et telle chose. Il doit toujours passer par le personnel de surveillance. Et donc, après, quand on sort, on lui demande d'être actif, de faire toute une série de démarches. On montre bien que c'est pas du tout... Il doit, comme s'il devait changer directement de casquette et apprendre des choses qu'il a désappris en prison.
Vous dites que rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait ? Vous avez éventuellement des pistes ?
Alors, moi, je pense que il faut c'est compliqué parce que c'est l'institution prison en tant que telle qui conduit à cela. Alors, on peut peut-être tenter des améliorations de la prison, même si on peut être relativement sceptique par rapport à ça. Mais enfin, quelles sont les pistes qui ont déjà été envisagées ? Il y a la première piste de formation des gardiens, d'accord ? Donc, si on estime que les gardiens sont mieux formés et peut-être plus ouverts aux difficultés des détenus, c'est peut-être une première piste pour tenter de diminuer ces effets négatifs de l'incarcération. Une autre piste, ce serait par exemple de prévoir ce qu'on appelle des prisons semi-ouvertes, c'est-à-dire des prisons où on n'est pas enfermé dans sa cellule 23 heures sur 24, mais qu'on a déjà plus d'activités possibles, où on reste plus un acteur et pas simplement un détenu qui doit faire sa peine, quoi.
D'accord, passons tout de suite à la rubrique Les Passeurs. Pour les passeurs de cette semaine, Julien, notre journaliste, s'est rendu au CIEP Alpha à Namur. Il y a rencontré Sophie Coudou, la directrice de l'association. L'alphabétisation des détenus et des anciens détenus est la première mission du CIEP Alpha, mais ce sont avant tout des leçons de vie en société qui y sont dispensées. Sophie Coudou traverse tous les jours cette frontière de la vie carcérale et elle a accepté de plonger notre journaliste dans les méandres de sa profession. Julien, bonjour.
Bonjour.
Donc tu as pu observer et tenter de comprendre le travail de Sophie Coudou. Concrètement, comment ces missions d'alphabétisation et de sociabilisation se mettent en place ?
Bien Lola, de ce que j'ai compris, pour les membres du CIEP, donc le CIEP c'est le Centre d'Information et d'Éducation Populaire, les deux missions vont de pair. Donc ils ne dispensent pas de cours ex cathedra, ce sont plutôt des tables de conversation. Ils ne donnent pas de leçons précises à leurs apprenants, alors ils préfèrent le terme apprenant à celui d'étudiant. Donc, ils n'ont pas de programme figé. Pour ces détenus ou ex-détenus, cet apprentissage se fera à la carte, si je puis dire. Les réalités et les ambitions de chacun étant personnelles, les cours s'adapteront donc à ces critères. Et comme ils le disent au CIEP, pas besoin de lire l'intégrale de Proust pour remplir des formulaires administratifs. Donc, par exemple, Sophie Koudou m'a expliqué qu'un jour, un des apprenants était un détenu assez violent. Il n'avait jamais connu que ça toute sa vie, s'exprimer avec ses poings plutôt qu'avec ses mots. Eh bien, pour ce détenu, les leçons se sont articulées autour de la gestion de la colère par l'écriture et la lecture. Donc, en pratique, tout simplement, il devait écrire et puis lire ce qui le dérangeait quand il avait envie de taper quelqu'un. Et par cette méthode, le CIEP tente de dépasser simplement l'apprentissage basique de l'écriture.
Et quels sont les objectifs majeurs que vise le CIEP, à part l'alphabétisation, bien sûr?
Eh bien, ils ont autant d'objectifs qu'ils ont d'élèves. Les enseignants travaillent là-bas et ils utilisent tous les types de matériel pour apprendre. Ils utilisent la presse, ils font des débats sur le rôle de la femme, sur la position de la femme dans la société ou sur le racisme. Et en fait, ils essayent de briser les préjugés et de créer des pistes de réflexion afin de trouver des voies de réinsertion. Donc, un ancien élève du CIEP voulait, par exemple, tenir un salon de toilettage pour animaux, mais il avait un sérieux problème d'alcool. Et donc, ils ont d'abord travaillé sur son sevrage et sur une remise en ordre administrative avant d'envisager une quelconque formation. Puis, ils se sont rendus compte que les formations pour faire toiletteur étaient très chères et que c'était totalement irréalisable pour cet ex-détenu. Après quelques temps à le fréquenter, ils ont remarqué que cet homme avait une très bonne capacité de communication et qu'il aimait s'occuper du service, tout simplement. Ils lui ont trouvé un stage dans un restaurant et il a enchaîné plusieurs formations, comme ça, dans le monde professionnel. Il est maintenant serveur et il travaille régulièrement. Donc, c'est une belle réussite. Mais bon, soyons francs, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Mais au moins, ces détenus ou ex-détenus détiennent un peu plus de clés pour se réinsérer.
Merci, Julien. Notre passeur, donc Julien, n'a pas pu passer cette frontière du monde carcéral. Est-ce que la prison et tout ce qui s'y passe est un sujet tabou? Comment alors est-ce qu'on peut comprendre ce milieu, comprendre les détenus? Vous parliez tantôt d'essayer de trouver quels étaient plutôt les points communs et pas les points qui nous divisaient. Comment est-ce qu'on peut faire pour les comprendre?
Alors, peut-être une idée qui pourrait intéresser certains de vos auditeurs particulièrement motivés qui voudraient concrètement passer cette frontière, mais vraiment donc de manière la plus concrète possible, donc c'est-à-dire rentrer en prison et avoir un rôle citoyen pour d'autres citoyens, s'ils conçoivent évidemment les détenus et anciens détenus qui sont toujours des citoyens, j'insiste sur le côté point commun, eh bien, ce que je pourrais leur proposer, c'est de faire partie de ce qu'on appelle les commissions de surveillance. C'est quoi une commission de surveillance? Eh bien, chaque prison du pays peut être contrôlée, surveillée, pour voir si les droits des détenus sont respectés. Et qui peut faire ça? Eh bien, ce sont des citoyens. Donc, vraiment, cette idée de faire partie des commissions de surveillance d'une prison, voilà une idée peut-être qui pourrait intéresser vos auditeurs s'ils sont intéressés à passer cette frontière.
Tout à fait. Donc, on s'est intéressé au programme d'alphabétisation proposé à la sortie de prison, mais d'autres types de formations sont disponibles pour les anciens détenus. Elles permettent même parfois de sortir plus tôt de prison. Au centre de formation FTQP, les jeunes de 18 à 25 ans sont chaleureusement accueillis par le directeur Tahar El Hamdaoui. Reportage d'Alice.
Le centre de formation est un centre agréé par Bruxelles Formation. Il dispense des formations dans le cadre de la construction, en maçonnerie et en plafonnage. Dans le domaine de la construction, il ne s'intéresse pas au passé du jeune. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un gars qui bosse, qui est là à l'heure, qui s'intègre dans une équipe et qui bosse, quoi. L'idée est de faire des pièces successives qui font qu'à un moment donné, le jeune atteigne les compétences de base. Très peu d'ex-détenus ont accès au centre de formation, de peur que les jeunes qui sortent de prison pourrissent le groupe. La formation, pour moi, elle permet évidemment de restructurer le jeune, d'avoir des compétences techniques, cognitives, et des compétences sociales, et donc de resocialiser le jeune, parce qu'évidemment le cadre est assez rigide, et on peut imaginer que le temps parcouru dans ce processus va l'amener à décrocher via le stage un emploi.
Je m'appelle Willem de Bardemacher et je suis accompagnateur. Enfin, je vais d'abord voir le jeune en prison. L'idée, c'est de créer le programme avec lui. Vous connaissez le proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc en prison, c'est toujours très motivant, quoi, parce qu'ils sont très très demandeurs et très très participatifs et tout. Et après, quand ils sortent, là, il peut y avoir, à ce moment-là, il peut y avoir des faiblesses. Il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, puisque s'ils ne respectent pas le programme, alors la juge les remet en prison, quoi. Donc ça joue sur deux leviers, et quand la motivation personnelle faiblit, alors il y a la motivation, on va dire, de la prison, quoi.
C'est le point de départ du processus, hein, ça. Donc c'est que ces jeunes se sentent accueillis. Le jeune sait qu'il peut venir quand il veut, qu'il est le bienvenu. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils sont, voilà, ils sont le bienvenu.
Le directeur du centre de formation Tahar El Hamdaoui déplore le manque d'accès aux formations pour les jeunes anciens détenus. Les formateurs craignent, il dit, que le jeune pourrisse le groupe. Est-ce que vous aussi, vous avez fait cette constatation ?
Alors, effectivement, au niveau des formations, l'accès aux formations des anciens détenus est assez variable. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'obligation à accepter tout le monde. C'est relativement difficile de rentrer au bon moment, parce que pour obtenir sa libération conditionnelle, il faut évidemment présenter un plan de reclassement. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, puisque comment voulez-vous obtenir, soit dans le meilleur des cas, un emploi, soit une formation, si vous ne pouvez pas dire à votre employeur « Voilà, je suis libre à partir de telle date », puisque vous ne le savez pas, puisque ça dépendra de la décision du tribunal de l'application des peines. Et donc, il y a un peu un cercle vicieux, puisque le tribunal d'application des peines va dire « Oui, mais vous n'avez rien de sérieux ». Quand on va à l'extérieur pour demander un emploi ou une formation, ils vont nous demander « Mais oui, mais attention, vous devez rentrer, vous devez commencer la formation à telle date ». Or, justement, le détenu ne sait pas si à cette date-là, il sera libéré ou pas.
Donc là, vous parlez d'un problème de timing, mais est-ce qu'il y a aussi, tout comme les ASBL, un manque de formation disponible pour ces anciens détenus ?
Effectivement, si beaucoup de services se limitent, ou interdisent, ou en tout cas parfois limitent le nombre de places réservées aux anciens détenus, effectivement, ça pose un problème d'accès à ces formations.
Est-ce que le fait de mélanger donc des formations avec des anciens détenus et d'autres types de populations pourrait permettre d'effacer cette frontière dont on parle aujourd'hui ?
Je pense que ça, effectivement, ce serait un mauvais signe de réserver des formations uniquement aux anciens détenus. Ça resterait quand même fort stigmatisant. Et je pense qu'effectivement, il faut continuer à faire le maximum pour que les formations et de plus en plus de formations soient accessibles à la fois aux détenus et aux personnes qui ne sont pas passées par la case prison.
Le directeur du centre FTQP a beaucoup de mal à trouver des collaborateurs pour participer au projet, donc des employeurs qui peuvent proposer des stages. Comment se fait-il que ce soit si difficile ? Est-ce que les préjugés sont vraiment si puissants que ça ?
Ben, on est dans une situation où avoir de l'emploi, c'est difficile pour pas mal de gens qui n'ont pas de bonne formation. Et alors, on va se dire, on prend un risque supplémentaire d'essayer de remettre quelqu'un qui, en plus, qui a cette difficulté-là d'être ancien détenu. Bien, effectivement, ça peut décourager certaines personnes. Et puis, de manière plus... à mon avis, plus critiquable, mais certains vont dire il faut d'abord donner de l'emploi à ceux qui n'ont pas été des anciens détenus. Alors là, évidemment, si en plus on a cette logique-là qui vient derrière, évidemment, ça complique encore plus les choses.
Si FTQP offre des formations dans la construction, c'est parce que c'est un des rares secteurs où l'on ne demande pas le certificat de bonne vie et mœurs. Est-ce qu'il en existe d'autres, des secteurs de ce style ?
Alors, effectivement, c'est celui qui me vient en tête en premier, mais je suppose que, malgré tout que il y a quand même des secteurs où des employeurs privés, des petites entreprises qui peuvent très bien se passer de cette information, puisque rien n'est légalement prévu à ce niveau-là. Donc là, on peut très bien imaginer, mais ça dépend plutôt, je dirais, de la volonté politique des employeurs.
Est-ce que vous remarquez une évolution dans cet assouplissement ?
Non, là, malheureusement, j'ai pas l'impression, en tout cas, j'ai pas vraiment travaillé cette question, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une amélioration à ce sujet.
Certains détenus regrettent énormément leurs actes et tentent de retirer du positif de leur expérience. C'est le cas de Jean-Marc Mailly. Julien et Romain l'ont rencontré pour nous. Incarcéré depuis 20 ans, il est libre maintenant depuis une dizaine d'années. Entre deux représentations de sa pièce « Un homme debout », Jean-Marc Mailly nous a accordé un peu de temps, place cathédrale à Liège, sa ville natale. Aujourd'hui éducateur, il met à profit son expérience auprès des jeunes. Le but, les faire réfléchir sur la portée de leurs actes.
Quand on sort de prison, il n'est pas toujours facile de se réinsérer. Le regard est parfois difficile à porter. Qui plus est, quand notre travail implique un contact avec les jeunes. Pour Jean-Marc Mailly, c'est tout le contraire. Son statut lui donne de la légitimité.
Je me suis toujours posé la question de savoir, mais bon sang, un jour, il y a un parent qui va arriver, qui va aller voir son prof, va dire, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait rencontrer mon enfant, un type qui a tué deux personnes. Eh bien, ce n'est jamais arrivé. C'est extraordinaire. Et en plus, le retour est encore beaucoup plus extraordinaire que ça. Donc beaucoup de jeunes, que je revois parfois des années après, me disent, ben voilà, maintenant, quand on voit un fait divers le soir dans un journal, hein, pour ne citer que le 19h ou le 19h30, ils ont tout à fait une autre notion. Ça veut dire qu'ils sont capables de se positionner sur un truc qui va durer 30 secondes.
Réfléchir par soi-même, voilà ce que Jean-Marc Mailly tente d'inculquer aux jeunes. Parce que les préjugés ont la peau dure. Il en a fait lui-même l'amère expérience.
C'est trois chiffres de ma réalité depuis 10 ans que j'explique à des jeunes. Ce n'est pas des statistiques, c'est mes chiffres à moi. Je leur dis, voilà, en 8 ans, j'ai dû déménager à 6 reprises parce que 6 fois, mes propriétaires m'ont vu à la télé, Beuthen. La peur. En 10 ans, j'ai eu 10 contrats de travail, dont 6 et 4. Donc j'ai été plongeur chez RTL TVI, j'ai travaillé au groupe Vers l'Avenir. Et chaque fois qu'on a appris mon passé, on m'a viré. Donc c'est pas faux d'avoir essayé quelque part de m'immerger dans cette société, de redevenir un citoyen normal. Hein, bon. Pas lambda, parce que je ne serai jamais lambda. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un citoyen normal. Et le troisième chiffre, avec les portes, c'est qu'effectivement, sur 10 portes auxquelles j'allais frapper, il y en a 9 qui restaient fermées. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'avoir une étiquette sur mon front et de me dire, mais enfin, c'est pas possible, je sors de prison, j'ai quand même payé le solde de mes dettes à la société.
Face à ce rejet de la société, Jean-Marc Mailly a quand même trouvé la force de se reconstruire. Il a fait de son passage en prison un atout. Mais une chose est sûre, la réinsertion ne se réussit jamais tout seul.
Ce qui est intéressant aussi bien à travers mes animations dans les écoles et que la pièce Un homme debout, c'est que le message qu'ils retiennent véritablement, c'est qu'on avance dans la vie avec les autres. Moi, j'ai vécu 3 ans en enfer tout seul. Hein. Il y a une petite phrase qui était là, vous pourrez trouver de tout ici sauf de l'aide. Et c'est vrai, tout le monde m'a laissé tomber, même l'aumônier, hein, même Dieu m'a laissé tomber. Mais l'aide, je l'ai trouvée en moi-même à un moment donné.
Est-ce que le fait d'essayer de faire profiter les autres de son expérience, donc ici à travers la pièce de théâtre ou à travers des conférences, permet d'adoucir son image auprès des citoyens ?
Alors effectivement, j'espère que ça, c'est un passeur qui permet justement de faire le lien entre ces personnes qui se considèrent un peu comme différentes. Et je pense que ça permet de tempérer cette frontière. Maintenant, je trouve que ce qui est vraiment remarquable chez M. Mailly, c'est qu'il a vraiment réussi à faire sa réinsertion presque un peu tout seul et qu'il s'est mis presque dans la position de l'indépendant. Maintenant, je pense qu'il faut quand même reconnaître que qu'il y a une limite à la logique de qui veut peut. D'accord. Donc effectivement, qui veut peut, ça peut marcher dans certains cas, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette logique qui ne peut pas, à mon avis, qui ne peut pas s'appliquer à tout sortant de prison.
En tant que professeur, donc vous êtes professeur à l'UCL, est-ce que vous trouvez cette démarche de témoignage et de partage intéressante? Est-ce que vous aussi, vous faites intervenir dans vos cours des anciens détenus?
Alors, pour l'instant, mes cours ne concernent pas directement cette question-là, donc je ne l'ai pas fait. Mais a priori, je trouve que c'est intéressant de faire venir des personnes pour des témoignages. Par contre, là où je suis parfois un peu plus tempéré sur l'intérêt, c'est des visites de prison avec des étudiants. Pourquoi ? Parce que là, on est un peu parfois dans l'image d'animaux un peu en cage qu'on vient visiter comme on visite un zoo. Donc là, je trouve que c'est très difficile quand on n'a que 2 heures avec une vingtaine d'étudiants qu'on doit faire passer cette frontière. Là, je trouve que c'est parfois difficile et je ne sais pas s'il y a plus de positif que de négatif dans ces activités-là.
Jean-Marc Mailly, on l'a entendu, a été fort médiatisé. Est-ce que cette médiatisation des procès ou des détenus, tout simplement, est une barrière à la réinsertion ?
Ah, je pense que ça, oui, tout à fait. Alors, de manière générale, la médiatisation de certains procès va même jusqu'à modifier la loi pénale, puisque, par exemple, avec Michel Martin, les seuils d'accès à la libération conditionnelle ont été rehaussés. Et donc ça, évidemment, ça va poser des problèmes. Pourquoi ? Parce que si on peut être libéré de plus en plus tard, eh bien, certains vont préférer aller à fond de peine. Ils vont se dire, à quoi ça sert que je sorte dans 2 mois ou maintenant ? Mais par contre, si j'attends encore mes 2 mois, je n'aurai pas de contrôle à l'extérieur. Plutôt que, autrement, j'ai un délai où pendant 4 ans, 5 ans, j'aurai un assistant de justice à qui je devrais rendre des comptes. Donc là, effectivement, quand se pose la question du contrôle, certains préfèrent alors renoncer à une libération conditionnelle. Or, on sait que les personnes qui sont libérées conditionnellement récidivent moins que les personnes qui sont condamnées qui vont jusqu'à fond de peine, comme on dit.
Est-ce qu'au final, donc là, les médias ne prennent pas la place de la justice ?
Oui, maintenant, oui, c'est vrai qu'on dit que les médias, c'est parfois le quatrième pouvoir. Vous donnez l'exemple contraire, là, je pense, quand vous faites ce genre d'émission, alors il y a médias et médias. Effectivement, quand on fait des procès médiatisés, c'est peut-être pas toujours pour des bonnes raisons. Là, on pense par exemple au procès Pistorius qui est médiatisé, mais derrière cela, je n'ai pas l'impression qu'on donne une bonne image aux gens pour casser cette frontière, parce que c'est pas parce que c'est Pistorius qu'on met tout ça en place. Mais à côté de cela, on ne va pas voir comment fonctionne la justice pour un voleur lambda.
Les médias ne devraient donc-ils pas envisager un traitement différent des affaires judiciaires, donc aller éventuellement plus dans la compréhension et pas juste se limiter aux faits ?
Bien sûr, mais c'est sans doute quelque chose qui demande plus de travail et que certains ne font pas parce que c'est sans doute moins vendeur. C'est comme, enfin, si je peux continuer avec cette idée de vendeur ou moins vendeur, par exemple, c'est la même chose pour le monde politique. C'est vrai pour les médias, mais c'est pour le monde politique aussi. Par exemple, on ne va pas faire en sorte de faire beaucoup bouger les choses pour que les détenus puissent voter. D'accord ? On a bientôt des élections. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas déchus du droit de vote, mais est-ce qu'on va faire beaucoup de choses pour qu'ils continuent à rester citoyens et symboliquement qu'ils le restent en votant ? Bien non, là, on a constaté que rien n'est mis en place pour inciter les détenus à voter pour les prochaines élections, par exemple.
Et à nouveau, est-ce que vous avez des idées de pistes pour les inciter à participer à ce devoir citoyen ?
Alors, je pense qu'il y a... Il y a d'abord une question d'information. Il y a beaucoup de détenus qui, sans doute, ne savent même pas qu'ils sont dans les conditions pour pouvoir voter. Alors, je pense que là, d'après ce que j'ai compris, le ministère de la Justice n'a rien prévu pour que les choses se fassent, pour qu'il y ait des procurations qui soient mises en place, etc. Donc là, effectivement, ce serait sans doute au niveau des services externes qui devraient prévenir les détenus et en fait que les directeurs mettent vraiment en place cette activité pour 2014. Mais là, je vous répète qu'actuellement, d'après mes informations, on est bien content que les détenus ne fassent pas ces démarches-là.
Donc, il faudrait plus d'informations.
C'est un début.
Voilà, ce sont sur ces paroles que nous clôturons notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons avoir pu vous apporter de nouveaux éclairages sur cette frontière sensible. Merci à vous, Thibaut Slingeneyer, d'avoir répondu présent à notre appel et de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci aux intervenants et aux ASBL qui ont participé à l'émission. Et puis, bien, merci à vous, chers auditeurs. Frontière revient la semaine prochaine à 16h. Notre équipe se concentrera sur la frontière de la nourriture. Quelles sont les exclusions sociales ou économiques qui divisent les omnivores et les végétariens ? En attendant, nous vous souhaitons une excellente semaine. À mercredi prochain.
Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. Ce programme a été diffusé en direct ce mercredi 5 mars de 16h à 17h. Bonne écoute sur Radio Campus.
Les infos. On dit les infos et pas les infos. Parce qu'à Namur, on fait du vélo et pas du vélo. Ouais, on dit du vélo. C'est juste le O, hein. Mais c'est vraiment fou. Hein. Le O, nous, on dit O, parce qu'on écrit O, donc on le dit O. Si on veut dire O, on dit A-U. Quand c'est A-U, on dit O. Donc c'est nous qui avons raison.
Joli, Fredo. Quel à propos. Notre son O, je garde au chaud. Imaginez l'inforadio, sans lettre O. Je tombe à l'eau. Il n'y a plus de studio, plus de micro, et même plus de mots. Alors écoutez Radio Campus. Oh, c'est beau.